Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, cessez-le-feu depuis quelques heures en Libye, ligne de front muette dans le sud de Tripoli, la fabrique de cette trêve avec Bertrand Galichet. Commémoration officielle ce dimanche en Haïti, 10 ans après un séisme qui a coûté la vie à 300 000 personnes. Reportage Nathanaël Charbonnier et Jérémy Tuile. Méfiance en France, le retrait temporaire de l'âge pivot à 64 ans tel que proposé par le Premier ministre ne cesse de faire réagir et les syndicats et les partis politiques. Le président du Sénat, Gérard Larcher, tonne. Il n'y a plus de réforme des retraites. Précision d'Antoine Geoffin. À la fin de ce journal, la face cachée du Globe, signée Nabila Hamel, est consacrée à la lutte menée par le président angolais João Lourenço contre le clan de son prédécesseur. Calme précaire au sud de Tripoli, dernier tir d'artillerie relevé peu après minuit. Depuis, le cessez-le-feu semble être respecté par les troupes du gouvernement d'Union nationale et par celles du maréchal Haftar. Il reste maintenant à consolider cette trêve et donc à réunir les commissions militaires ad hoc. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Mathieu.
Bertrand, cette pause intervient, commençons par le dire, après 9 mois d'intenses combats.
Une offensive lancée par le maréchal Haftar, qui contrôle depuis 2017 un vaste territoire dans le nord-est de la Libye et dont le quartier général est situé à Benghazi. Le 4 avril dernier, ses troupes lancent un raid éclair vers la capitale, Tripoli, située 1 millier de kilomètres plus à l'ouest. Elles parviennent même à s'emparer brièvement de l'ancien aéroport international, désaffecté depuis la chute de Kadhafi. Puis l'armée du gouvernement de Fayez al-Sarraj, reconnue par les Nations Unies, repousse cette avancée des rebelles qui au cours du printemps et de l'été 2019, jusqu'à une nouvelle attaque menée le mois dernier par le maréchal Haftar, qui s'empare le 6 janvier de la ville de Sirte, à moins de 600 km de la capitale. Désormais, l'homme fort de la Cyrénaïque étend son influence sur une vaste zone côtière, partant de la frontière égyptienne à l'est jusqu'à Sirte, le gouvernement Sarraj contrôlant pour sa part le reste du littoral vers l'ouest jusqu'à la Tunisie, une délimitation évolutive ces derniers jours au gré des combats qui se concentrent, comme la population libyenne, le long de la côte méditerranéenne.
Et Bertrand, comment cette trêve a-t-elle été rendue possible ?
Eh bien, grâce à la rencontre Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan, mercredi dernier à Ankara. Vous savez que la Turquie a récemment envoyé des troupes en Libye pour soutenir le gouvernement de Tripoli. Or, depuis plusieurs semaines, les troupes du maréchal Haftar bénéficient dans leur offensive de l'appui de plusieurs centaines de mercenaires russes du groupe Wagner. Cette organisation paramilitaire appartient à un oligarque proche du Kremlin. Vladimir Poutine se défend, sans convaincre, d'avoir autorisé cette présence russe en Libye. Le risque de confrontation sur le terrain entre les intérêts de la Russie et ceux de la Turquie est donc élevé, d'où cette trêve imposée aux belligérants par Moscou et Ankara. Alors rien ne garantit un cessez-le-feu durable, on signale déjà des violations, mais seule la pression conjuguée des Russes et des Turcs peut agir sur les belligérants. La France, elle, reconnaît officiellement le gouvernement de Tripoli, mais cultive en même temps une relation privilégiée avec son adversaire, considéré comme un allié précieux dans la lutte contre le terrorisme. Paris a organisé des rencontres entre les deux rivaux en 2017 et 2018, estimant que personne aujourd'hui ne détient un mandat du peuple libyen.
Merci à vous Bertrand Galichet. L'émir du Qatar attendu sous peu à Téhéran. Première visite officielle en Iran de Tamim Ben Ahmad Al Thani qui pourrait faire office d'une médiation. Doha, allié de Washington, entretient en effet de bonnes relations avec Téhéran. À suivre dans la journée la prise de parole du chef des gardiens de la révolution devant le Parlement. Session à huis clos dédiée à la riposte iranienne, à l'élimination par les États-Unis du général Qassem Soleimani, ainsi qu'au tir de missile qui, par erreur, a détruit en vol mercredi dernier un Boeing d'Ukraine Airlines. 176 morts. Il y a 10 ans, jour pour jour, un puissant séisme ensanglantait Haïti. 300 000 morts, presque autant de blessés, 1,5 million d'habitants à la rue. La mauvaise gestion de l'aide internationale et la gouvernance défaillante, inepte, ont laissé le pays en jachère. Les commémorations officielles échouent, semblerait-il, à aider les rescapés à faire le deuil. C'est un reportage à Port-au-Prince de Nathanaël Charbonnier.
Il aura fallu 10 ans pour que Louis Naupierre, enseignant, retourne à l'endroit exact où il se trouvait ce jour-là à 16h53.
Et nous sommes sur le site où j'ai failli mourir le 12 janvier 2010.
Il n'était jamais revenu, il faut dire que l'endroit a bien changé. Aujourd'hui, le lieu sert de parking alors qu'à l'époque...
C'était un building de 5 étages.
Et comme pour prouver que cet immeuble a bien existé, Louis Nopierre sort une photo où l'on peut le voir imposant avec ses 4 étages. Ces 4 mêmes étages qui, quelques minutes plus tard, se retrouvaient en bloc de béton sur son corps blessé.
Il y a quelques personnes qui cherchaient d'autres personnes et qui ont pu essayer de dégager les blocs que j'avais sur le genou, sur le coude.
Et d'expliquer alors que les blessures du corps ne sont rien à côté de celles des âmes, qui pendant quelques jours, en Haïti, ont pactisé aussi bien avec la vie qu'avec la mort.
Les morts et les vivants étaient quasiment mélangés dans certains sites après la catastrophe.
Et Louis Nopierre l'assure, une vie qui a flirté avec l'au-delà n'est plus tout à fait la même. Elle prend alors de nouveaux reflets et aime particulièrement profiter du temps volé.
Je ne suis plus attaché ni à l'argent, ni au bien, ni quoi que ce soit. Quand on voit qu'on peut tout perdre dans un instant, ben, tout ce qu'on peut posséder, ça n'a aucune valeur.
Nathanaël Charbonnier et Jérémy Tuile à Port-au-Prince. En milieu de matinée, l'UNSA RATP appelait à poursuivre la lutte contre la réforme des retraites. Et ce n'est pas le seul corps dit intermédiaire à se méfier des propositions gouvernementales. Avant tout, celle de retirer temporairement du texte l'âge pivot de 64 ans. Bonjour Antoine Geoffin.
Bonjour Mathieu.
Antoine, tout est dans l'adverbe.
Oui, il faut bien lire la lettre adressée hier au syndicat par le Premier ministre Édouard Philippe. Il écrit « Je suis disposé à retirer du projet de loi la mesure de court terme que j'avais proposée, consistant à converger progressivement à partir de 2022 vers un âge d'équilibre de 64 ans en 2027 ». Fin de citation. Ici, c'est bien le court terme qu'il faut retenir. L'UNSA, RATP, majoritaire dans les transports parisiens, l'a bien vu. C'est un leurre, une mise en scène, dit-elle. Dans ce retrait provisoire, l'économiste Bertrand Martineau, ancien conseiller social à l'Élysée, voit lui un simple report de la mise en application de l'âge d'équilibre. Bertrand Martineau, ce matin sur France Info.
Il y a un âge d'équilibre en régime de croisière, c'est-à-dire qu'une fois que le régime universel sera mis en place, qui concernera les régénérations à partir de 1975, sur cet âge d'équilibre à long terme, en fait, le gouvernement ne recule pas du tout. Mmh. Ce qu'il recule, c'est la mise en place d'un âge d'équilibre à court terme, de 2022 à 2027, pour résoudre un problème financier à court terme, qui est avéré par le Conseil d'orientation des retraites et qui va être aggravé par toutes les mesures dépensières en fait qu'il y a par ailleurs dans cette réforme.
À Force Ouvrière, on est bien conscient de ce retrait temporaire. Son secrétaire général Yves Verrier est dubitatif. Oui, c'est un recul que nous obtenons par la mobilisation, dit-il, mais l'âge d'équilibre à 64 ans sera bien là en 2027. À la CFDT, l'âge pivot est une ligne rouge et son leader, Laurent Berger, salue un compromis sans chèque en blanc. La CGT, enfin, est amère puisque si le gouvernement semble ouvrir une porte, dit-elle. Il refuse également une hausse du coût du travail pour ramener le système à l'équilibre. Marché de dupes, dénonce déjà la CGT. FO abonde dans ce sens. En clair, le gouvernement nous refuse de négocier la hausse des salaires et des cotisations.
Antoine, quid cette fois des premières réactions politiques?
Au PS, Boris Vallaud ne dit pas mieux que la CGT et FO sur ce volet négociation. Légiférer les yeux fermés ou négocier aux conditions du gouvernement, ça n'est pas admissible. Le tweet le député socialiste. Au Rassemblement National, on critique une manipulation cousue de fil blanc. Pour Marine Le Pen, l'âge pivot n'existait que pour être retiré et faire passer la pilule d'une réforme qui, croit-elle, précarisera des millions de retraités. De réforme, il n'en est même plus question pour le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher. Sur Europe 1, ce matin, il s'inquiète du résultat de la conférence de financement en vue du débat parlementaire.
Une chance pour le Sénat, nous débattrons sans doute fin avril. Il faudra qu'on nous dise les réalités du financement. Alors, je ne voudrais pas vous décrire ce qui pourrait être l'accord. On tape dans le fond de réserve des retraites, 20 milliards. Anti-familière, c'est énorme. Non, c'est 2 années de déficit. On transfère à partir de 2024 la CRDS qui est faite pour la dette sociale sur les retraites. On augmente les cotisations, donc on pèse sur la compétitivité. Je ne voudrais pas que ça soit ça la conclusion d'une conférence de financement. Il faut qu'on regarde les problèmes en face.
Un mot de la majorité pour terminer avec le député LREM Olivier Véran en synthèse. La droite hurle au renoncement, la gauche à l'entêtement. C'est donc que l'accord est bon, dit-il.
Merci à vous Antoine Geoffin. Il est 12h39. Vous écoutez le journal de France Culture. La face cachée du globe est consacrée ce dimanche à la lutte menée par le président angolais João Lourenço contre le clan de son prédécesseur Eduardo dos Santos. Bonjour Nabil Hamel.
Bonjour Mathieu. Il était à la tête d'un État considéré comme la Suisse du Golfe. Le sultan Qaboos d'Oman est mort hier à l'âge de 79 ans. Sa politique étrangère, basée sur la neutralité et la non-ingérence dans les conflits, avait souvent fait de lui un médiateur idéal. Les hommages ont afflué de partout hier, aussi bien des pays arabes que de l'Iran, des pays occidentaux et d'Israël. Le gouvernement proposé par Ennahda a été rejeté vendredi soir par le Parlement tunisien. Un échec pour le parti islamiste qui avait tenté de placer des magistrats qui lui sont proches dans des postes régaliens au risque de mécontenter les autres acteurs politiques. Le président Kais Saied a désormais 10 jours pour trouver un nouveau Premier ministre. Et toujours pas de gouvernement non plus au Liban où les manifestations ont repris de la vigueur hier à Beyrouth. Il faut former un cabinet provisoire et opérer un remaniement du pouvoir avant que la révolution de la faim ne reprenne le dessus, prévenait un manifestant. La situation économique du pays a empiré et les banques ont drastiquement limité les retraits bancaires. La guerre que livre l'actuel président angolais João Lourenço aux proches de son prédécesseur a pris des proportions plus importantes ces jours-ci. On savait le fils de l'ancien président dos Santos, Filomeno, sous le coup d'une action en justice. Depuis le début de l'année, c'est sa sœur Isabel dos Santos qui vient de se voir signifier un gel conservatoire de ses actifs. Elle et son époux sont soupçonnés d'avoir détourné $1 milliard des groupes publics pétroliers Sonangol et de la compagnie des diamants Sodiam au profit de leurs affaires privées. Didier Péclar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'Angola à l'Université de Genève, auteur du livre « Les incertitudes de la nation en Angola » paru aux éditions Carta là, en 2015. Isabel dos Santos était considérée par le magazine Forbes comme une des femmes les plus riches d'Afrique. Des Angolais voient en elle l'incarnation du népotisme reproché à son père, Eduardo dos Santos, qui a dirigé le pays pendant 38 ans avant de s'effacer. Quel impact peut avoir cette affaire en Angola ?
C'est un impact symbolique très important. Donc c'est un élément de plus, si vous voulez, du détricotage, si vous me permettez cette expression, de l'héritage touche en Angola. Maintenant, sur le plan économique, je ne pense pas que les mesures qui ont été prises actuellement auront un impact particulier. Isabel touche se plaint que ça va l'empêcher de payer 20 000 personnes qui travaillent dans ces entreprises en Angola, mais pour l'instant, ce sont ses avoirs personnels qui ont été saisis et ça n'aura pas d'impact économique direct. En revanche, ce qui est important pour le gouvernement angolais, c'est le rapatriement de capitaux qui sont actuellement à l'étranger et les mesures qui ont été prises contre Isabel dos Santos et son mari s'inscrivent aussi dans cette recherche assez effrénée dans un contexte de crise de la part du gouvernement angolais pour faire rentrer des capitaux qui ont été investis par les élites angolaises à l'étranger. D'autant plus que dans le cas de João Lourenço, c'est en tant que monsieur propre qu'il s'est fait élire. Il disait qu'il allait mener une bataille importante contre la corruption. Ce qui frappe tout le monde aussi, c'est à la fois que l'on puisse s'attaquer aussi rapidement à l'héritage du président qui a été en place pendant 38 ans et que cette lutte contre la corruption soit pour l'instant dirigée principalement contre la famille dos Santos. C'est là aussi une des limites importantes des actions qui ont été menées par João Lourenço jusqu'ici.
Oui, alors les détracteurs du président João Lourenço au pouvoir depuis 2017 lui reprochent d'agir ainsi pour éviter d'autres reproches, notamment sur une situation économique toujours aussi désastreuse dans le pays.
Effectivement, l'Angola est en crise économique depuis la chute conséquente des prix du pétrole, la principale source de revenus. Et dans ce contexte de crise-là, effectivement, le gouvernement doit faire feu de tout bois pour faire tourner tout simplement le pays, pouvoir payer les fonctionnaires, etc. Et le fait de s'attaquer à l'héritage dos Santos à un moment où le clan dos Santos était justement critiqué pour ses excès, pour la façon dont il s'était approprié une bonne partie de l'argent public de façon très privée. Ça peut être aussi vu comme une façon d'éviter de parler des véritables problèmes auxquels est confronté l'Angola actuellement.
Et cette affaire est très commentée au Portugal également, où la justice du pays a été saisie d'une plainte de l'ex-eurodéputée Ana Gomes. Ana Navarro-Pedro, vous êtes journaliste portugaise. Comment tout cela est perçu sur place ?
C'est la première fois que la justice portugaise ouvre une enquête sur la provenance des biens et avoirs d'Isabel dos Santos dans notre pays. Il faut savoir qu'elle a investi dans des domaines très sensibles, dans la banque, l'énergie, les télécommunications, la grande distribution. Et il faut bien dire que dès le début de ces investissements, il y a eu des enquêtes au Portugal, de la part de journalistes, sociologues, économistes, sur la provenance de ces biens et il l'accusait, les autorités portugaises, d'accepter que le Portugal devienne une sorte de blanchisseuse. Alors, est-ce que cette enquête va aller très loin? On verra bien. Il faut dire que ces investissements sont très judicieux, sont plutôt des placements, puisque ça n'a pas vraiment produit une plus-value importante. Mais elle a placé environ pour 2 milliards d'euros dans les trois principales multinationales portugaises, qui sont toutes dirigées par des familles. Donc on voit là cette perméabilité entre les élites angolaises et les élites portugaises. Comment cela va maintenant évoluer, puisque les avoirs risquent d'être gelés en Angola? Qu'Isabel dos Santos est elle-même maintenant réfugiée à Dubaï et se prévalant de la nationalité russe. Il y a fort à parier que les groupes portugais sauront faire la culbute vers les nouvelles élites de l'Angola. Et reste à savoir si la justice ira jusqu'au bout de cette affaire ou pas.
Merci à vous, Anna Navarro-Pedro, et à dimanche prochain.
Merci à vous, Nabil Amel. À dimanche prochain, la météo de l'après-midi en quelques mots. Averse à venir de la frontière belge jusqu'à la Charente-Maritime en passant par l'Île-de-France et le centre Val-de-Loire, soleil au sud, d'une diagonale qui s'étend de l'Alsace au Pays Basque. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue. À la technique, Jean-Guy Linmège.